Radio Campus, il est 8h.
Je suis qu'un petit commerçant au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel. Vous pouvez me croire, je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel. Je suis artiste intermittent.
Nous sommes le lundi 2 janvier 2023. On n'a pas encore l'habitude de dire 2023. Ça fait tout bizarre. Bonjour Virginie, ça va bien?
Salut Max, oui, ça va super. Une nouvelle année, plein d'espoir, plein de bonnes résolutions. Et toi?
Mais ça va bien aussi. Hein, tout c'est essentiel en direct cette fois-ci.
Oui, mais exceptionnellement. Oh, c'est notre
quelle
première.
Drôle d'idée on a pour cette nouvelle année. Et tu as même ramené un invité dans le studio.
Oui, un invité direct. En direct aussi, c'est extraordinaire. Alors d'abord, je voudrais souhaiter mes meilleurs vœux à nos auditeurs et auditrices. Je vous souhaite une belle année avec de la santé pour pouvoir profiter de tous les plaisirs de la vie, de l'émerveillement, de la joie, des rires, des chants. Voilà, en fait, tout ça pour nourrir votre espoir et votre fermeté, pour rien lâcher.
C'est de très joyeux vœux.
Et puis un revenu de base, qu'est-ce que t'en penses?
Bon, ça serait bien.
Oh, oui, avant la fin de l'année.
Bon, ouais, ouais. Peut-être il faut pas trop rêver tout de suite, mais bon.
On va l'avoir. Alors justement, on reçoit un élu du Nord, du département. Il s'appelle Laurent Perrin. Bonjour Laurent.
Bonjour. Bonjour Virginie. Bonjour Max. Meilleurs vœux cette année 2023 et meilleurs vœux à tous les auditeurs et auditrices de Radio Campus.
Et figure-toi que lui, il se bat tous les jours pour avoir un revenu de base. Alors, sous une forme particulière qui va nous présenter le revenu universel d'existence. Et j'en profite pour saluer aussi Faustine Balmel, qui travaille avec lui, mais elle est élue d'opposition au conseil municipal de Lille et à la métropole de Lille. Je la salue, même si elle n'est pas là aujourd'hui, elle n'a pas pu se libérer, mais elle a fait un énorme travail et on va en parler. Donc c'est comme si elle était là avec nous et je la remercie en même temps que toi, Laurent. Alors tu vas d'abord passer par la moulinette de notre devinette. Imagine, à partir de demain, tous les mois, tu reçois suffisamment pour vivre. Ça tombe sur ton compte, à ton nom, il n'y a rien à faire et c'est jusqu'à la fin de ta vie. Qu'est-ce que ça changerait pour toi?
Alors, pour moi, ça changerait beaucoup de choses, mais c'est peut-être pour les autres. Moi, je pense aux autres avant tout.
Commence par moi.
Oui. C'est vrai.
Concrètement, est-ce que ça changerait quelque chose?
Surtout le rapport au travail. Enfin, c'est sur cet angle-là que moi je me base et je milite pour un revenu universel d'existence. On voit bien aujourd'hui les difficultés du monde du travail, son évolution, etc. Bon, on aura le temps d'en discuter, de développer un petit peu après, mais c'est vraiment cet aspect-là.
Mais du coup, toi, t'arrêterais de travailler ou
Pas forcément.
Ah.
Ben non, pourquoi? Parce que déjà, un revenu de base, comme on dit, c'est la base. Même si il y a différentes notions, est-ce que c'est suffisant pour vivre? Est-ce que c'est suffisant pour
normalement, faire l'ensemble? Ça l'est, au moins le minimum, oui.
Ouais, mais
pour vivre dignement.
Pour vivre dignement, ouais. Ça, on est d'accord. Ceci étant, il y a plein d'autres choses comme les loisirs, ça peut être les voyages, des choses comme ça. Est-ce que c'est suffisant pour mener la vie qu'on a envie d'avoir? Je sais pas, puisque on l'a pas encore expérimenté, on l'a pas encore mis en place.
Mais du coup, ton travail d'élu, de syndicaliste, tu le continues?
Déjà, élu, c'est pas un travail, c'est un mandat, c'est presque un plaisir. Non, mais plus sérieusement, je pense que ça amènerait quelque chose de nouveau dans le monde du travail. Une vraie relation différente. On voit aujourd'hui, moi je le vois parce que effectivement, je suis aussi syndicaliste. Et depuis des années, c'est ma porte d'entrée, on va dire, vers la politique. J'ai toujours milité, pour aider les autres et pour essayer d'avoir un monde plus juste, une société plus juste. Et donc, on voit bien que les mobilisations, elles sont difficiles. Elles sont difficiles. Les mobilisations gagnantes et les luttes gagnantes, sont difficiles. Peut-être parce que il y a un rapport de force qui n'existe plus aujourd'hui. Donc là, effectivement, le revenu universel, je pense que ça permettrait d'avoir ce levier un peu différent et ce rapport un peu différent au monde du travail,
au salaire. Parce qu'il y aurait plus de chantage à la fin ou des choses comme ça.
Et
voilà.
voilà, quand on négocie, on n'a pas le même rapport de force si déjà on a un plancher.
C'est ça.
Voilà, on a déjà des. On le voit bien d'ailleurs aujourd'hui dans les métiers en tension. C'est des métiers
oui,
sur lesquels voilà les salaires évoluent et c'est quand même voilà c'est quand même important. Et donc je pense que ça changera beaucoup beaucoup de choses. Voilà, si on le met en place là dans l'année, c'est ça, c'est ce que j'ai compris.
Hein. Mais, oui, non, mais moi je l'ai promis pour mon fils, hein, je vous préviens, avant ses 18 ans, il nous reste 7 ans. Hein. Non, bah, il est gentil quand même, il nous reste encore les 4 ans de Macron, plus bah, ce qu'on en fera après. Quoi. Donc, non, dans 7 ans, il y en a un, ça c'est sûr. Alors justement, donc ton étiquette politique, c'est génération.s, c'est par là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, notamment au moment des municipales avec Faustine pour préparer une expérimentation dont on parle. Parlera. Mais la première étape, ça a quand même été 2017, avec Benoît Hamon, voilà, qui a présenté cette idée-là à la face des Français et du monde. Ça a beaucoup fait couler d'encre, aujourd'hui moins, et pourtant, ça a quand même semé. Ça a semé beaucoup de petites graines, et aujourd'hui, on ne rencontre plus personne qui mélange le revenu de base ou revenu universel avec le RSA ou le SMIC, par exemple. Donc ça a été quand même une grande avancée. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous parler de cette version du revenu universel le base. Non, justement pas le revenu universel d'activité dont on reparlera à la fin de l'émission avec une dernière régression qui nous tombe sur le coin du nez, notamment dans le département du Nord. Mais je dis bien le revenu universel d'existence et ça change tout.
Oui. Tout d'abord, je serais pas là ce matin, effectivement, s'il n'y avait pas eu cette campagne de Benoît Hamon en 2017. Enfin, moi, très objectivement, le revenu de base, le revenu universel, j'en avais entendu parler avant 2017. Pas forcément sous de bons auspices, plutôt la version, on va dire, libérale, moins d'État, moins d'aide, pas du tout cet aspect émancipateur.
Un solde de tout compte, comme ça les pauvres nous embêtent plus et puis ils se laissent faire.
Donc vraiment, 2017, c'est le début pour moi de voilà cette prise de conscience, et effectivement, j'ai pas été le seul. Effectivement, c'était une bonne campagne sur ce point-là, puisque ça a permis, parce que c'est rare hein, quand même des campagnes politiques où on arrive à mettre des idées de fond comme ça au débat et de faire avancer quelques idées. Oui, c'est un projet. Alors c'est Benoît Hamon, mais c'est un projet collectif. Tu le disais. Là, moi, je suis là ce matin, mais voilà, génération.s, on est nombreux à porter cette idée-là. Faustine Balmel, elle le fait, voilà, comme elle le peut. À chaque fois qu'elle le peut, au niveau municipal, au niveau métropolitain, moi, je le fais au niveau départemental, au niveau national, et même au-delà de nos rôles d'élus, on est avant tout des militants. Donc on essaye de faire passer cette idée donc du revenu universel d'existence qui est quoi qui est un revenu sans condition sinon il serait pas universel
voilà c'est ça
quel que soit alors même quel que soit l'âge quelles que soient les conditions sociales une somme qui serait versée à tout à chacun tous les mois qu'est-ce que c'est pour moi c'est un nouveau pilier de la sécurité sociale de la protection sociale quand je dis ça veut déjà on balaye toute une partie de, on va dire, d'expérimentation ou de projet dit revenu universel. Voilà, parce qu'on voilà, on remet pas à zéro la sécurité sociale, mais c'est bien quelque chose de nouveau. On voit aujourd'hui que le système social tel que l'on connaît, il a des avantages et des qualités, mais il a aussi des défauts, parce que sinon, on serait pas dans une situation où il y a encore beaucoup de citoyens et citoyennes dans la grande pauvreté. Il y aurait pas ces difficultés liées au monde du travail. Donc, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, il faut trouver des idées nouvelles. Et cette idée du revenu universel d'existence, elle a progressé. 2017, il y avait un projet qui avait été mis en place, mais voilà, il a vocation à évoluer, à se nourrir, à s'expérimenter même. On y viendra tout à l'heure, mais c'est l'idée. C'est pas un programme clé en main. Voilà, on a des grandes orientations, émancipation, un autre rapport au travail. Je l'ai dit tout à l'heure. Le revenu universel, c'est pour créer et garantir des revenus décents. Il doit assurer la dignité, l'autonomie à chacun et chacune en permettant, mais justement, un rapport de force plus favorable entre travailleurs et employeurs. Donc voilà, et tout ça s'accompagnera aussi de réformes fiscales. On y viendra sur la partie financement tout à l'heure, mais aussi sur la partie réduction du temps de travail. Enfin voilà, c'est un tout. C'est une des clés d'un projet de société, d'un projet politique qui, moi, pour moi, est très fort. Parce qu'il va voilà, structurer et remettre en cause un certain nombre de choses qu'on connaît aujourd'hui.
Notamment des dominations.
Exactement. Et des inégalités qui sont de plus en plus, j'allais dire, voilà, exacerbées. Hein. Enfin, il y a des choses qui sont de plus en plus fortes et difficiles dans le monde d'aujourd'hui. Donc voilà, ce revenu universel d'existence, il est là pour ça. Bah, voilà, pour remettre... chacun maître de son avenir, si je puis dire.
Redonner le pouvoir individuel et du coup collectif, c'est ça que j'entends dans,
c'est ça,
dans
c'est
ce que
ça.
Tu dis.
Alors, c'est vrai qu'il pose beaucoup de questions. Peut-être qu'on y viendra après. Forcément, quand il y a un projet de cette envergure, il y a tout de suite... alors. Les réactionnaires,
oui.
De toute façon, ceux qui sont dominants aujourd'hui et qui voient que bah, peut-être que ça peut être un outil qui va mettre à mal leur...
De révolution, avec une action circonflexe.
Bah oui, clairement. Enfin, quand on porte ce type de projet, c'est une sorte de, voilà, de révolution. Voilà, donc il y a ces premières réactions. Et puis il y a ceux même, j'allais dire, à qui ça s'adresse. Voilà, aux plus défavorisés, aux plus pauvres, mais qui ont quand même, voilà, qui ont des interrogations par rapport, je veux dire, aux tenants et aboutissants. On voit tellement de choses en ce moment quand on parle de, y compris d'aide sociale qui devrait être, voilà,
oui, oui.
J'allais dire, sans condition, sans jugement, sans stigmatisation. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Donc, c'est vrai que quand on met sur la table un projet comme celui-là, il y a forcément des interrogations et des choses de dire, bah, il y a peut-être quelque chose derrière. C'est quoi le loup?
Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Oui, on avait vu, notamment dans une émission avec des personnes qui ont été précarisées par, par le système, qu'il y avait cette angoisse, voilà, cette désillusion permanente qui disait, mais voilà, non, on veut pas d'argent parce que on va se faire avoir derrière. Et la deuxième réaction, c'était cette fameuse valeur travail. C'est non, non, mais nous, on veut du travail pour être dignes, tellement ils avaient perdu leur confiance en eux et cette espèce de, oui, de conscience de soi-même comme un citoyen à part entière qui ne devrait pas normalement passer par avoir un emploi qui en plus doit être bien payé et reconnu et à temps plein et CDI, enfin ben, voilà, tout cette espèce de mythe qui se désagrège dans la réalité mais qu'on garde précieusement comme un Graal, mais qui quand même évolue.
Non, mais je pense que c'est ça, il y a une difficulté aujourd'hui. Alors on va pas se lancer peut-être dans le... Donc, débat travail-emploi
voilà.
Ce matin de premier jour de l'année. Mais pour autant, c'est ce qui est structurant dans la réflexion de chacun. Tout le monde travaille.
Oui, c'est ça. Voilà.
Tout le monde travaille.
Même si on n'a pas d'emploi,
même si on,
on
pas
est tous utiles à la
même
société.
Même si on n'est pas rémunéré, bah, le matin, voilà, on est, et on aide en ça la société. Ne serait-ce qu'amener ses enfants à l'école, voilà, c'est un travail.
Tout à fait. Se lever pour venir faire une radio à 8h du matin.
Ouais, oui, ça c'est un plaisir.
Par exemple,
ça, s'il te plaît.
Bien sûr, on t'accompagne toujours. Mais... Alors très concrètement, donc, on a vu un peu que l'ambition du RUE, c'était principalement émanciper face au travail, ou plutôt à l'emploi, disons, pour libérer le travail et les travailleurs. Mais très concrètement, voilà, en termes de faisabilité, est-ce que tu peux nous rassurer de ce côté-là?
Ouais, ah bah oui, je vais vous rassurer.
Parce que c'est crédible, quoi.
Bah oui, c'est crédible. Sinon, je serais pas là, c'est pareil, à 8h du matin pour essayer d'expliquer les choses. Non, mais bon, déjà,
les grandes lignes.
Peut-être sur le principe même, déjà du montant du revenu universel d'existence,
oui.
Il est bien au-delà de celui du RSA aujourd'hui et des minima sociaux, pardon, qu'on a connus par le passé, puisqu'on l'estime à 50%, enfin, au seuil de pauvreté, donc on est plutôt autour de plutôt 900 000 euros. Mmh. Voilà. Donc on se dit, bah voilà, on fait les calculs. 1000 euros, allez, j'arrondis pour être simple et puis parce que les choses évoluent aussi en la matière. On se dit, mais c'est pas possible avec 66 millions d'habitants en France, etc.
Oui, quand on fait 66 fois 1000,
monsieur, ouais, monsieur Perrin, il faut être raisonnable, il faut être réaliste. Bah oui, mais je suis tout à fait réaliste. Déjà parce que, alors, ça se fait en plusieurs étapes. On va pas du jour au lendemain verser ces sommes. Voilà, ça c'est la première des choses. Et la première des étapes, c'est les jeunes. Aujourd'hui, il y a un trou dans la raquette de toute façon sur
les 18-25.
Sur les 18-25 ans, c'est quelque chose voilà qui qui peut être mis en place, j'allais dire, sans rien changer de structurant. Voilà. Bon.
On le rappelle pour ceux qui l'ignoreraient encore, les 18-25 n'ont pas droit au RSA. Il y a quelques exceptions, mais qui sont hyper conditionnées. Par contre, ils ont le droit d'aller en prison. Voilà. Ah oui, ils sont citoyens pour certaines choses. Ils payent des impôts, mais ils n'ont pas le droit aux minima sociaux.
Ils ont le droit de voter, heureusement. Mais pour autant, il y a un certain nombre d'aides ou d'allocations qui leur sont pas possibles.
Ce qui crée une dépendance à la famille.
Exactement.
On l'avait déjà
dépendance
vu.
À la famille ou dépendance à trouver un emploi pour financer ses études. Enfin voilà, c'est toute cette chaîne là qui est compliquée. Donc on commence par les jeunes. Ça, il n'y a pas grand chose à changer. Et puis ensuite, on l'intègre dans un dispositif et dans une réforme fiscale. C'est-à-dire qu'il faut peut-être revoir aujourd'hui les choix qui ont été mis en place ces dernières années. Je mets pas une barrière fixe parce qu'il y a des choses qui ont pu évoluer, mais grosso modo, moins d'impôts. Moins d'impôts pour les entreprises, moins d'impôts, sur le patrimoine. Voilà, donc il y a vraiment une clé là-dessus pour rendre une fiscalité plus juste. Enfin, je le dis d'autant plus facilement puisque ma profession, je suis inspecteur des finances publiques.
Donc tu es crédible.
Je sais pas, je le mets quand même dans le paysage. Ça me met un peu de crédibilité de bon matin. Mais pour autant, mais on a vu qu'il y a des décisions fiscales. Enfin là, c'est tout le monde l'a vu, que ce soit là sur le dernier quinquennat. Sur les plus fortunés avec l'ISF, mais aussi avec la taxe forfaitaire sur les revenus de capitaux. Donc il y a eu des choix fiscaux très importants et des choix aussi d'exonération, etc. Donc il y a peut-être des choses à faire parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est un peu... Là, on nous dit, vous allez donner ça à des gens sans conditions, sans rien du tout.
Ça se fait pas.
Ça se fait pas, il faut...
Sauf que ça se fait déjà.
Sauf que ça se fait, et là, ça pose beaucoup moins de questions quand il y a des niches fiscales, quand il y a des choses de cette nature. Bon, où il y a quand même, dans la majeure partie des cas, peu de contrôle. Et donc, c'est quand même... Donc, ça s'intègre dans ce dispositif-là. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas comme ça, on change pas, on verse pas. On fait bien ça dans un système... Et puis, ce sera aussi le rassemblement de certaines allocations, notamment les allocations familiales, puisque le but, c'est de donner aussi au moins de 18 ans. C'est-à-dire que chaque enfant, entre 0 et 18 ans, pourra avoir un revenu de 300 euros. Nous, c'est ce qu'on dit, 300 euros par enfant, fractionné en deux. C'est-à-dire 100 euros par mois. Placé sur un compte disponible et ce qui permettra à chaque jeune d'avoir à sa majorité 20 000 euros, un espèce de capital de départ dans la vie d'adulte.
Pour les études
ou pour un projet professionnel, un projet associatif, peu importe. En ce sens, c'est même un dispositif meilleur que les allocations familiales aujourd'hui. Et donc une contribution, plus généreuse à l'éducation des enfants. Donc là aussi, on travaille là-dessus. Mais pour revenir au financement global, c'est à peu près, on l'estime à 20%. Du produit intérieur brut.
Voilà.
Donc, on se dit ça fait beaucoup, etc. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 15% quand on parle de minima sociaux, d'allocations et d'aides et d'allocations familiales. Donc voilà, il y a un petit gap, évidemment, c'est un choix de société, je l'ai dit tout à l'heure. Pour autant, c'est tout à fait faisable et crédible. Donc c'est ça le plus important, c'est quand on met une idée, c'est qu'on a les possibilités, les leviers. Alors, là, je ne vais pas détailler l'ensemble des mesures fiscales. C'est pas mon rôle. Ça sera le rôle des parlementaires, des députés qui seront élus et qui mettront l'idée. En place et qui proposeront ce revenu universel d'existence de valider l'ensemble du dispositif. Mais je vais le dire parce que par rapport à 2017, on a beaucoup progressé. D'accord. C'est-à-dire que sur la campagne de 2017, cette idée, elle était arrivée peut-être un peu trop tôt. Et pas mûr dans tous les esprits, y compris chez les militants, chez les responsables politiques. Et donc, on avait dû s'accommoder d'un certain nombre de choses.
Oui, c'est-à-dire qu'on avait dû... Avec en plus les conseils de Thomas Piketty, qui était lui-même pas complètement convaincu.
Peu importe, tout le monde était dans quelque chose de relativement nouveau, une matrice qui n'était pas complètement formée. Mais là, les choses sont beaucoup plus affirmées, beaucoup plus prêtes. Après, ça passera aussi, et c'est pour ça qu'on peut en dire deux mots après. Je sais pas, je regarde l'heure, mais si sur l'aspect financement, c'est sur l'aspect expérimentation.
Oui.
On a le temps et on doit justement avancer aussi sur ces questions-là, de financement, d'objectifs et de timing sur, sur des expérimentations concrètes.
Mais je voudrais justement rebondir un peu là-dessus pour faire la transition et peut-être avoir une petite pause musicale. Rappeler quand même que, alors, sur le site de revenudebase.info, vous trouverez une carte des expérimentations avec tous les effets. Et désolé, hein, j'ai bien cherché, mais il n'y a aucun effet négatif. Et donc, on voit dans les effets, notamment, qu'il y a moins d'accidents du travail, qu'il y a moins de violence, qu'il y a moins de délinquance, qu'il y a moins de vols, qui a moins de de pauvreté, c'est quand même bête, et il y a beaucoup plus d'entrepreneuriat. En fait, l'économie est boostée, les gens vont mieux, ils sont moins stressés, ils sont moins malades. Donc on peut, même si c'est difficile à chiffrer, on peut aussi imaginer qu'il va y avoir au niveau global d'un système social comme le nôtre des économies très concrètes au niveau individuel comme au niveau collectif.
Et bien donc du coup effectivement je te propose une petite page musicale avec Hexagone 2020, c'est Renaud Bistan qui s'y colle, c'est parti, une chanson mode actualité, hein, vu que c'est l'Hexagone, c'est la nouvelle année, tout ça, voilà.
C'est pas ce qu'on fait mieux en ce moment, on s'embrasse au mois de janvier, dans la joie et dans l'insouciance, on se souhaite une bonne santé pour l'année nouvelle qui commence. Vaut mieux l'avoir la santé, vu que l'hôpital crève en silence. Les services publics sont flingués dans la plus grande indifférence. Lorsqu'en plein mois de février, il fait 30 degrés à la neige, on veut quand même aller skier, on réclame les canons à neige. Pour notre loisir égoïste, on videra les réserves d'eau, mais on ne quittera pas la piste et notre belle combi fluo. Lorsqu'au mois de mars on est lit de l'autre côté du Mont Blanc, un apprenti Mussolini pas très cool avec les migrants. Certains quand même trouvent ça flippant, ne veulent plus prendre le Fréjus, mais on oublie que notre président aussi a refusé l'Aquarius. En avril c'est les premiers bons, week-end à Rome ou à Lisbonne, on est très fan de prendre l'avion, on se fout bien du bilan carbone. Jet Airbnb, c'est l'opium des classes moyennes, se faire le monde en mode selfie, si possible trois villes par semaine. Être né dans la bonne classe moyenne, souvent c'est penser qu'à sa gueule, souvent c'est répondre aux sirènes, qui disent qu'on s'en sort mieux tout seul. En mai, y a un nouveau suffrage, mais il n'y a qu'un seul candidat, celui qui est censé faire barrage à la peste, au choléra. On crie partout que les abstinents mériteraient la chaise électrique, ben ouais, trois jours tous les cinq ans, on se chope une conscience politique. En juin, y a la nouvelle saison sur Netflix de cette série qui nous scotchera à la maison avec un plateau de sushis. La terre peut s'arrêter de tourner, l'écran restera face à nous, tant qu'un larbin vient nous livrer dans sa tenue des livres. En juillet, on apprend comme ça que tout se meurt sur la planète, que bientôt, à part le chihuahua, il n'y aura plus une plante, plus une bête. Face au changement climatique, aux grosses vagues de chaleur, la seule réaction, c'est tragique, c'est de s'acheter un climatiseur. Au mois d'août on ressort les bobs, nous ce qu'on aime c'est voyager, on se demande bien quel coin du globe on pourrait aller saccager. On laisse les beaux fapes à la vase, on veut se distinguer du lot, Bali c'est quand même plus classe pour Instagram et son maillot. Être né sous le signe des classes moyennes, c'est pas la gloire assurément. De Caluire jusqu'à la Mayenne, c'est être un voisin vigilant. En septembre, c'est la rentrée, l'abonnement aux salles de sport. On veut de beaux abdos fessiers, putain qu'on est fan de notre corps. Tout part en couille partout autour, mais en bon monstre auto-centré, nos regards débordent d'amour pour ce youtubeur beauté. En octobre, le salon de l'auto dit que pick-up et SUV tiennent maintenant le haut du plateau, qu'on aurait tort de se priver. Alors comme la tendance est là, qu'on a quelques sous à la banque, c'est comme ça, on réfléchit pas, et désormais on roule en tente. Lorsqu'en novembre, sur les ronds-points, ça se met à bouger tout à coup, vu que ça concerne le prix du plein, on dit ouais à fond avec vous. Mais quand la révolte s'étend, veut changer les règles du jeu, on dit d'un ton condescendant, t'as eu 100 balles, qu'est-ce tu veux de mieux? En décembre, c'est l'apothéose, la grosse bouffe et les petits cadeaux, on veut pas se la jouer morose, se dire qu'on en fait un peu trop. Mais bien qu'on veuille se faire rêver avec l'iPhone du fiston, au fond, on sait qu'on va crever de cette hyper-consommation. Être né sous le signe des classes moyennes, ce n'est pas une fatalité. Pour peu qu'un jour l'envie vienne de faire un pas de côté.
Renaud Bistan, donc, sur les ondes de Radio Campus, 106,6. Hop là.
Alors, un pas de côté, mais effectivement, pas une aumône, pas un 100 balles, un bifton, comme ça, glissé dans la chaussette du Père Noël, et puis après, vous nous embêtez plus. Non, nous, ce qu'on veut, c'est un système qui change, quelque chose qui soit organisationnel, toute la vie, qui s'installe dans nos mœurs, et qu'on s'habitue à avoir un peu de sécurité, à être intégré dans une société, comme un citoyen à part entière, et avoir une liberté et du pouvoir d'agir, n'est-ce pas, Laurent?
Ben oui, bien résumé.
Et d'ailleurs, de façon très concrète, parce que bon, il y a une espèce de grand soir qui serait un revenu de base universel pour tout le monde dans toute la vie et international, parce qu'il y a aussi des pistes un peu partout, hein, on n'est pas tout seul. Mais en attendant, il y avait une première piste qui était proposée, les Lillois ont eu dans leur dernière campagne municipale. À 200 voix près, ils n'ont pas choisi cette version, mais pourtant, vous avez travaillé avec Faustine Balmel une expérimentation que vous avez proposée. Est-ce que tu peux nous la définir avec, évidemment, l'idée que c'était une proposition, etc. Mais voilà, quand même, les grandes pistes, l'intention et un peu de pistes de réalisation.
Oui, je peux. Et alors, c'était... Évidemment, un travail collectif avec l'ensemble de nos partenaires,
y compris le mouvement français pour le revenu de base.
Voilà, exactement. On a travaillé ensemble parce que effectivement, c'est quelque chose de nouveau, mais il nous semblait très important, en tout cas pour Génération, de ne louper aucune opportunité. Dès qu'on pouvait expérimenter, voir les effets justement d'un revenu de base, d'un revenu d'existence, et puis en même temps. Je c'est pas fait exprès, hein, c'est, je dis en même temps, j'ai aucune référence politique. Mais donc, et en plus, aider des publics en difficulté, des citoyens et citoyennes défavorisés, bah voilà, pourquoi se priver, voilà. Alors, clairement, c'était quelque chose de, enfin voilà, d'original, parce que
un peu un pari, oui.
C'était un pari. Parce que oui, dans les compétences voilà d'une commune aussi grande et aussi belle soit-elle, celle de Lille, même si j'aime toutes les autres villes de la métropole et du département du Nord, je le dis.
Tu vas faire des jaloux là.
Ouais. Mais c'est pas dans ses compétences premières. Voilà.
Oui, c'est pas un périmètre idéal.
Voilà, c'est pas le périmètre idéal. Pour autant, il y a des marges de manœuvre, il y a des possibilités d'action, et donc on voulait à travers voilà ce programme municipal mettre en place et expérimenter le revenu universel. Alors, il n'aurait pas été à l'ensemble des Lillois et des Lilloises, c'était pas possible. Là, pour le coup, c'est pas réaliste. Donc autant voilà, nous on dit les choses, hein. Je veux dire, quand les choses sont possibles, on les dit. Quand elles sont pas possibles, on les dit aussi. Pour autant, on avait plusieurs étapes de mise en place avec différentes cibles des habitants en situation de fragilité sociale ou de grande pauvreté. C'était notre cible voilà pour cette expérimentation. Alors après, il y avait différentes hypothèses. On pouvait très bien cibler un tout petit périmètre avec un petit nombre de bénéficiaires, j'allais dire, ou bien l'élargir et puis avoir un mandat et avoir des sommes, j'allais dire, moins importantes. Mais nous, l'idée, c'était plutôt le versement d'un revenu d'existence à 1000 personnes. Sur l'ensemble du mandat, donc ça pouvait être sur un an, 2000 euros, là pour le coup, voilà, on allait sur ce montant mensuel, voilà. Sur les financements, on avait déjà, à travers l'action sociale, ciblé un certain nombre de possibilités budgétaires. Donc là-dessus, voilà, quand on amenait cette chose au débat public, c'était bien parce que c'était réaliste. C'était pas simplement une lubie en disant, ils sont dogmatiques, ils veulent essayer un truc. Non, c'est pas du tout ça. On essaye d'agir, on essaye de trouver des solutions. Et puis on s'appuyait aussi sur des expériences, enfin on y reviendra, mais qui avaient existé, par exemple à Grande-Synthe, sur le minimum social. C'est des choses différentes, mais voilà, on essayait de se nourrir aussi. Comment ça allait se passer? On voulait surtout, c'est avoir un suivi et une évaluation de ces politiques.
Voilà, c'est l'objectif.
De voir effectivement s'il y avait des effets négatifs, comme tu le disais, à ce dispositif.
On continue à les chercher.
Voilà, c'est pour ça. Donc nous, on était tout à fait ouverts. Donc on voulait avoir un panel de chercheurs, de citoyens, d'associations pour regarder très concrètement, pour éventuellement même faire évoluer ce dispositif. Donc c'était quelque chose de très ouvert. Voilà, on restait sur une expérimentation. C'était le but. Mais voilà, il faut qu'on s'empare de ces étapes-là pour arriver à un revenu. En tout cas, c'est notre sentiment, c'est notre démarche de ne louper aucune occasion pour essayer ces dispositifs, mettre en œuvre, se confronter à la réalité budgétaire, à la réalité humaine, et puis voir effectivement est-ce que c'est un dispositif utile, ou alors est-ce que c'est encore pas la bonne solution pour répondre aux difficultés qu'on peut connaître aujourd'hui en matière d'emploi, en matière de pauvreté, etc.
Alors, en attendant qu'une expérimentation telle que vous l'aviez un peu proposée, dessinée, puisse se réaliser en France, donc on lance un appel à toutes les villes de France qui voudraient s'y coller. Il y a déjà une base. Sachez aussi que, alors on a déjà vu ici sur notre plateau l'expérimentation de Terra, qui est en France aussi, dans le Lot-et-Garonne, et qui vient de réussir une belle levée de fonds, appuyée par la Fondation de France, etc. Mais là, c'est plutôt pour revitaliser des territoires ruraux, donc vous pourrez chercher chez terra.coop, et il y a un certain nombre, et de plus en plus même de mairies aux États-Unis qui se lancent dans des minima sociaux, alors qu'ils vont recouper un peu notre propre système social, parce qu'on est en avance encore malgré tous les trous qu'on y fait encore, on est quand même en avance sur le monde entier en termes de sécurisation des individus, mais voilà, sachez que ça existe et qu'en France, il y en a qui ont déjà commencé à réfléchir là-dessus. On avait évoqué un petit peu aussi à Lyon le revenu minimum garanti orienté vers les jeunes, donc c'est effectivement une des premières cibles pour combler un gros trou dans la raquette. Alors tu parlais de périmètre, donc ça c'était plutôt le périmètre de Faustine sur le côté municipal et métropolitain. Attends, toi t'es plutôt au niveau départemental, est-ce qu'il y a plus d'ouverture de ce côté-là?
Alors avant de répondre à ta question, j'ai oublié juste un point, mais c'est parce que
C'est du direct, c'est du direct.
C'est
vas-y.
Du direct, c'est le 2 janvier. Tout va bien, mais je suis ravi d'être là. Et non, juste parce que ça m'a fait penser quand tu parlais de l'expérimentation rurale, on avait prévu aussi le versement potentiel de ce revenu universel en monnaie locale. Voilà, donc quand on parle d'insertion, de redynamisation, tout ça c'est lié. Et donc on avait mis en place en hypothèse ce versement mixte, on va dire, pour tenir compte de l'activité locale et des commerces locaux.
J'en profite pour faire une petite incise, c'est que justement la monnaie locale, donc il y en a eu une à Lille, elle n'a pas fonctionné, mais elle est en cours de réhabilitation, alors pour l'instant plutôt ciblée sur les entreprises pour reformer une sorte de réseau de ce côté-là, mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à taper ça sur internet et rejoindre le groupe qui est en train d'y retravailler. Alors, le département
je vais quand même répondre sur les...
Sur
le département, et c'est vrai que c'est la compétence la plus forte, notamment aujourd'hui avec le RSA, puisque c'est le département qui verse et qui travaille aux politiques, normalement de manière forte, aux politiques d'insertion. C'est vrai que c'est plutôt, ce niveau-là, qui serait un niveau très intéressant pour mettre en œuvre, développer de manière, là pour le coup... plus qu'une simple expérimentation, mais vraiment quelque chose de de structurant une expérimentation d'un revenu universel. Voilà. Et d'ailleurs, c'est la demande qu'avait formulée, je ne sais plus s'il y a 2 ans, un certain nombre de présidents de conseils départementaux.
Oui, oui, une vingtaine.
Qui s'étaient adressés voilà, au président Macron de l'époque. Bon, il n'y avait pas eu de réponse voilà, très claire de la part du gouvernement. Mais en tout cas, il y avait des départements qui étaient prêts. À mettre en œuvre et là aussi moi je me voilà replace j'allais dire sur le dispositif et le programme qu'on avait pu porter là sur les élections départementales c'est vraiment quelque chose voilà qu'on avait ciblé pour avancer sur ce dispositif de revenu universel de revenu de base et là on a toutes les clés.
C'est-à-dire...
On a toutes les clés, c'est-à-dire qu'on connaît aujourd'hui bah, les personnes en grande difficulté, j'allais dire qui ont des difficultés d'insertion, voilà, donc ces personnes en voilà grande pauvreté ou très grande pauvreté, voilà, elles sont connues, elles sont déjà voilà identifiées par les services du département. Donc ce travail il est d'autant plus important, me semble-t-il, sur l'échelle départementale.
Oui, parce qu'on peut les contacter, on peut les,
oui,
on
voilà,
peut les toucher directement, quoi.
On a vraiment une échelle, voilà, pour le coup, très efficace sur ce type de politique.
Parce que plus systémique, c'est
comment
ça? Parce que plus systémique,
parce
en fait.
Parce que plus systémique, voilà. Tout à fait.
Alors, pour ceux qui se sont intéressés par ces 20 départements socialistes qui ont effectivement demandé officiellement à expérimenter un revenu de base, je vous renvoie sur la Fondation Jean Jaurès qui les a accompagnés. Ils sont passés par plusieurs phases, notamment une phase de remontée des avis des citoyens eux-mêmes. Il y a eu des comités de réflexion, etc. Et puisque le président Macron avait promis dans sa campagne électorale de laisser ouvert les expérimentations local, ben ils se sont autorisés à demander et effectivement, comme tu l'as dit, avec une fin de non-recevoir. Par contre, en parallèle, Macron défendait une version complètement régressive qu'on a beaucoup beaucoup dénoncée et qu'on continue à refuser avec les associations comme ATD, etc., le revenu universel d'activité. On reparlera des régressions, mais d'abord, est-ce que tu peux développer un petit peu au niveau départemental ce que ça pourrait donner?
Bah, là aussi, on est sur des dispositifs qui devront être souples dans un premier temps. Si on est sur des phases d'expérimentation, et là, pour l'instant, même si l'échelle est plus importante, on ne peut rester que sur des phases d'expérimentation. Donc là, je pense que l'intérêt, en tout cas l'intérêt qu'aurait une expérimentation d'un revenu de base, un revenu universel sur les départements, ce serait de pouvoir justement avoir des profils différents. Déjà de département, c'est le principe d'une expérimentation, mais justement sur les dispositifs au final retenus. Donc là, enfin c'est pareil, le champ des possibles est très large, mais il faut la volonté politique. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. C'est pas les idées de mettre en place une telle ou telle expérimentation sur tel département. Demain, on dit, nous avons à gauche, la gauche et les écologistes ont la majorité dans le département du Nord, nous serons en capacité de mettre en place une expérimentation de revenus de base, voilà, à discuter ensemble, etc. Mais tout ça est possible. Non, mais ça, au plus, on se rapprochera du revenu universel d'existence que je développais au départ. Au mieux, ce sera. Après, il faut y aller, comme je le dis, avec souplesse et avec étapes. Donc là, pour moi, la première des choses, c'est évidemment les jeunes, les 18-25 ans, aujourd'hui, comme l'a fait la métropole de Lyon, qui a des compétences départementales, là, pour le coup, sur ces questions d'insertion. Voilà, ils ont ciblé les jeunes parce que effectivement, il y a un besoin et un besoin flagrant d'un dispositif. Voilà, et c'est pas de l'assistanat, comme on peut l'entendre, ce n'est pas une... Voilà, des choses régressives, mais c'est bien les aider voilà, au quotidien pour ne pas être dépendant d'un emploi chez McDo ou toute autre forme de rémunération type voilà, Deliveroo, Uber, etc., ouais, Uberisation, etc. Donc voilà. Après, voilà, je peux pas aller plus loin sur le dispositif. Mais j'aimerais bien.
Oui, voilà.
Voilà, c'est ça.
Et donc les freins, alors principalement dans notre département, c'est le fait de ne pas avoir la majorité, j'imagine.
Ah bah, oui, ça, quand on fait de la politique, souvent c'est mieux d'avoir la majorité quand on veut mettre en place ces expérimentations, ces dispositifs politiques forts. Non, là, enfin, pour parler deux secondes du département du Nord, on a une, mais j'y reviendrai peut-être après, on a, j'allais dire, une orientation politique totalement différente. Mmh. Et une, là, on parlait de, voilà, de quelle orientation et quelle, quelle finalité. La finalité du département, en tout cas la majorité du département du Nord aujourd'hui, de Christian Poiret, son président, c'est la remise à l'emploi.
Donc, ben voilà, oui.
Sans
oui,
emploi, pas de dignité.
Bien sûr.
Oui. Et c'est exactement les termes qu'il emploie pour parler des allocataires du RETA. On va leur redonner de la dignité. Donc, sous-entendu, pas d'emploi, pas de dignité.
Oui.
Bah, moi, ce n'est pas ma vision des choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le travail, c'est très important, mais il s'exerce de différentes natures, différentes formes. Et cette stigmatisation-là, à chercher, clairement, à sortir les gens du RSA, mais, j'allais dire, presque pas pour les aider, mais simplement pour avoir une analyse comptable plus satisfaisante, d'avoir moins de nombre de l'objectif aujourd'hui de la majorité, c'est d'avoir moins d'allocataires du RSA, pas pour les aider ou voilà, mais simplement pour déjà que ça coûte
chiffres,
moins,
voilà.
Et puis pour que ça coûte moins en département. Nous avions avec le groupe écologiste là quand nous sommes arrivés demandé la recentralisation du RSA. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui le RSA c'est un dispositif totalement inégalitaire entre départements. Un département entre comme le Nord ou les Hauts-de-Seine n'ont pas du tout les mêmes, d'une part les mêmes recettes, mais aussi les mêmes besoins,
même critères d'ailleurs,
puis les mêmes besoins de financement au niveau du RSA. Mmh. Et donc ça dévoie totalement l'ensemble de la politique départementale, parce que vous allez mettre énormément sur ces aides-là à juste titre, et voilà, parce qu'il y a des besoins, mais pour autant, vous n'avez moins d'argent pour financer les autres politiques du département, et ça c'est totalement pas satisfaisant. Donc nous c'est bien un dispositif national de recentralisation du financement, ce qui ne veut pas dire qu'on travaille pas localement à des politiques voilà fortes, ambitieuses, avec les associations, avec les centres sociaux, etc. Mais ça veut dire que c'est l'État qui prend en charge aussi cette politique de solidarité nationale. Et donc dans le cadre d'un revenu d'existence, ce devra être la même. Enfin, voilà, c'est la même chose, quoi. Il faudra être sur un financement national.
Il faut rappeler aussi que la fameuse décentralisation qui est en cours depuis quelques années ne s'accompagne pas de l'argent qui correspond, puisque très régulièrement, l'État se défausse de certaines responsabilités, mais sans donner l'argent nécessaire. Et se rajoute en plus sur les RSA, on en avait déjà parlé, que l'État a anticipé le non-recours. Donc, pour rappel, hein, pour ceux qui l'ignoreraient encore, il y a quand même 2/3 des personnes qui ont droit au RSA dans la partie activité qui ne le demandent pas ou qui ne réussissent pas à l'avoir parce que c'est compliqué, parce que même par dignité, ça peut être par choix aussi. Et il y a 1/3 du RSA socle, c'est-à-dire des gens qui en auraient besoin pour vivre, qui ne l'ont pas d'une façon ou d'une autre. Et l'État anticipait ça et ne fournit pas suffisamment d'argent. Donc voilà, moi j'adorerais pouvoir défausser de certaines activité sans donner on va faire ça très concrètement, je vais demander à quelqu'un de venir s'occuper de mon gamin pendant que j'irai faire la fiesta, mais je ne le paierai pas. Mais c'est ça, non mais c'est pas mal, non mais il faut apprendre à se délester de temps en temps. Une petite pause avant qu'on parle de régression sociale, ça va peut-être nous aider.
Mais oui, parce qu'en fait figure-toi qu'il y a un dispositif qui ne fonctionne pas, mais si, le ruissellement, tu sais.
Le quoi?
Le ruissellement. C'est les goguettes en trio, mais à 4.
Je peux bosser pour gagner des clous, rêver d'une BM roulée en kangou, mais cette fois ça y est, je tiens le bon bout. À la télé, ils disent partout, les riches gagnent toujours plus de sous, et que ça me retombera dessus si je reste juste en dessous. Le ruissellement, le ruissellement, je vais l'avoir, mon petit pourboire, si je suis méritant. Le ruissellement, le ruissellement.
seulement. Et Emmanuel, c'est le Père Noël, évidemment. C'est hyper convaincant. Moi, je veux bien croire en à peu près tout. L'avenir de François Bayrou et des licornes, j'en vois plein partout. Les milliardaires, ils donnent beaucoup. Ils créent des fondations, ils font des bisous. Mais les cheminots, ils se gardent tout. Le ruissellement, si je reste sage, j'aurai une image de temps en temps. Le ruissellement, et la marmotte aimait le chocolat dans le papier d'alu. Je suis hyper convaincu.
C'était les Goguettons Trio, mais à 4 sur les ondes de Radio Campus Lille 106,6. Et on continue avec cette émission Tous Essentiels, l'émission consacrée aux revenus de base.
Je viens de trouver un super jeu de mots, je peux le caser. Avec le ruissellement, on pleure.
Ah oui, ouais, ça marche.
Non mais je viens de l'inventer, hein, pas non plus. Alors, justement, on va pleurer un petit peu. Parce que la réalité est quand même pas super drôle. Figurez-vous que pendant les fêtes... Le gouvernement en a profité, entre la cerise et le gâteau, pour nous glisser un petit décret, mais sorti des fagots. Alors je pense que ça fait un certain temps qu'ils ont envie de nous le sortir, mais là ils nous l'ont casé sans huile, hein, sans discrètement. Mais heureusement Laurent va nous éclaircir tout ça. Alors, Laurent, est-ce que tu peux...
Ouais, enfin,
hélas, jouer...
Je vais faire très rapide, parce voilà. que c'est vrai qu'on parlait avant de... d'expérimentation possible, de dispositifs innovants, progressifs. La réalité, elle est un peu plus compliquée, malheureusement. On est en 2023. Le gouvernement actuel, avance sur un certain nombre de réformes régressives et il en a même une là prévue en janvier, je crois, sur les retraites.
Oui, alors on cumule réforme des retraites.
Non, sur l'assurance chômage.
On
l'avait vu venir déjà depuis un petit moment. Il y avait eu un débat évidemment parlementaire autour de cette question. C'était déjà pas bien brillant, mais en plus les décrets d'application sont sortis là. Pendant les fêtes et durcissent encore les conditions d'indemnisation des chômeurs. Je pense que le chemin il est clair. Il faut retourner à l'emploi.
Voilà,
c'est ce que je disais. Pour le coup, le département
du
Nord,
choisi,
il s'intègre parfaitement dans ces dispositifs. Il s'intègre parfaitement dans cette vision des choses. Donc là, c'est-à-dire, on a vraiment un affrontement entre des visions de société. Et c'est important de l'avoir en tête. C'est quel objectif on poursuit quand on met en place des réformes. Une réforme, ça veut rien dire. Hein. Enfin, elle peut être,
Oui, le changement, c'est maintenant, mais dans quel sens, quoi?
Ça, c'est encore autre chose. je pourrais me réinviter, mais dans une autre émission sur le bilan 2012-2017. Ça, c'est, voilà. Pour autant, les réformes, ça veut rien dire quand on regarde pas le contenu et la philosophie. Et, là, la philosophie était claire, mais elle est encore plus rude. Elle sera plus rude pour les demandeurs d'emploi là dès le 1er janvier, dès aujourd'hui.
Donc en résumé, des gens qui ont cotisé parce qu'ils ont bossé, on parle quand même bien de ça, on parle pas d'assister, c'est-à-dire des gens qui ont cotisé en bossant, en se disant comme ça je vais pouvoir m'autoriser une période de chômage au besoin, hein, parce que quelquefois on en a besoin, pour se poser, pour passer à autre chose, pour voilà. Et non, même pas, on vient de leur réduire leur durée d'indemnisation, etc. Et donc on cumule en ce moment donc la réforme des retraites, l'assurance chômage, et alors là tu nous arrives avec un cadeau spécial du département, parce qu'on a quand même un département qui se porte candidat pour des choses très chouettes. Mmh. Et on vient d'être retenu, vas-y, dis-nous, pour...
Pour l'expérimentation du RSA conditionné à 15 chance. Ou 20 heures
on est lauréat.
D'activité.
On est lauréat,
travail.
Non mais...
Ah oui, alors...
Pompon, quoi.
C'est presque pas une surprise, malheureusement, même si on est toujours... c'était une promesse du président Macron, là, sur cette campagne présidentielle, cette dernière campagne présidentielle, il avait annoncé que, entre guillemets, ça suffit, maintenant, ces allocataires du RSA, là, qui n'arrivent pas à trouver d'emploi, c'est pas normal.
Non, devant la télé avec leur bière, ça suffit.
Et puis surtout, vu les difficultés de recrutement dans certaines filières, c'est quand même, il y a quelque chose qui va pas. Bon, il faut peut-être s'interroger sur pourquoi ces filières sont en tension, formation,
conditions de travail,
rémunération, carrière, etc.
Bon, des emplois à trous.
Il y a une idée aujourd'hui dans la tête de certains de nos hommes et femmes politiques, c'est il faut remettre à l'emploi, coûte que coûte, les allocataires du RSA. Donc il y a une expérimentation qui va se développer, dont les contours ne sont pas totalement fixés. Donc là-dessus, il y a encore des décrets qui doivent sortir et des discussions autour des modalités. Mais pour autant, il y avait 43 candidats qui s'étaient portés candidats. 43 départements qui s'étaient portés candidats, et dont le département du Nord. Et le 13 décembre, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, dévoilé la liste des 19 territoires, donc c'est 18 départements plus la métropole de Lyon, qui ont été retenus pour accéder à ce dispositif, à cette expérimentation.
C'est possible, les expérimentations. Il y en a qui sont acceptées.
C'est des choses qui existent.
Alors concrètement, ça va... Vouloir dire
concrètement,
quoi
c'est simple. On va mettre sous conditions. Et c'est là où c'est.
Mais il y en a déjà des conditions.
Il y en a déjà, mais il y en aura encore plus. Il faudra 15 à 20 heures d'activité, y compris dans des emplois.
Par semaine,
par semaine.
Par semaine.
D'activité hebdomadaire obligatoire. Donc c'est vraiment quelque chose. Enfin voilà, on voit tout de suite la nature même de cette expérimentation. Réforme que moi je qualifierais de purement idéologique. On les dit empêchés ou trop éloignés de l'emploi. En fait, c'est avant tout des citoyens et citoyennes qui ont besoin d'un accompagnement social visant à la réinsertion. C'est simplement ça. Donc on est quand même sur une réforme assez problématique. Au département du Nord, on nous a pas évidemment associé à cette mesure. On nous a simplement indiqué que on était que le département était candidat. Donc le groupe écologiste, c'est montré opposé à ce dispositif, bien loin de répondre justement aux besoins que tu pointais tout à l'heure sur notamment le non-recours. Mmh. Aujourd'hui, on a 30% des citoyens et citoyennes qui pourraient bénéficier du RSA, qui en auraient besoin pour vivre. Pour leur insertion. Insertion sociale, plutôt que de travailler à cette chose qui est documentée, puisque c'est même la Cour des comptes qui le dit.
Illégal,
on préfère cibler les allocataires du RSA qui sont connus et qui seraient donc c'est vraiment un projet très régressif et qui est vraiment très très compliqué donc on sera très vigilant.
Mais je voudrais quand même donner un visage humain, parce que quand on parle des gens au RSA, quand on dit des chiffres, très concrètement, j'ai une amie qui est mère célibataire avec deux filles, parce que les papas se sont barrés. Oui, ça arrive, c'est comme ça. Si elle a pas le RSA, elle est à la rue. Mmh. Et elle ne peut pas faire garder ses deux gamines avec le RSA pour aller bosser un mi-temps gratos. Enfin, c'est tout bête, c'est pas une généralité, c'est des gens, des vrais gens qui vivent au quotidien. Et c'est pas qu'elle est feignante, c'est que elle a déjà plein de choses à faire avec ses deux gamines, qu'elle se forme en même temps. Enfin voilà, c'est une réalité de terrain qui est complètement passée sous silence. Et c'est de la souffrance, mais accumulée, quoi. Et c'est pas de la fainéantise, c'est aussi un système du travail qui est mal foutu, qui ne s'adapte pas à la vie personnelle des gens. Enfin voilà, c'est pas des gens devant leur télé qui boivent leur bière en fêtant notre défaite au Qatar. Bon.
Ouais. Non, bref. Mais c'est évidemment ici on en est convaincu, mais c'est un dispositif qui va se mettre en place là pour le coup. On n'est plus sur des réflexions à quelques années. Là, il se mettra en place en 2023, avec évidemment un dispositif pareil de suivi. L'ensemble des départements de France a mis en place un groupe de travail pour le suivi de cette expérimentation. Mais bon, déjà les attendus et les conditions. D'ailleurs, il y avait le département de Seine-Saint-Denis qui s'était positionné. Parce qu'il se dit, il y a peut-être quelque chose de nouveau, on peut regarder, il y a peut-être et puis il y a du financement. Voilà. Mais au vu des conditions qui ont été mises aujourd'hui sur la table, même si elles ne sont pas totalement fixées, c'était pour eux pas acceptable. En tout cas, ça n'allait pas avec les politiques qui menaient aujourd'hui en matière d'insertion et d'accompagnement social. Donc là, on n'est plus sur une contrainte, une obligation. Contraindre les allocataires du RSA à accepter n'importe quel emploi, quand bien même c'est pas ce qu'ils souhaitent faire, quand bien même ce n'est pas ce pour quoi ils sont formés.
Ou que ce soit pas adapté à leur rythme de vie, leur capacité physique, etc.
Ça, c'est clair.
Et en même temps, ça veut dire qu'il y a du travail, puisque on a quand même toutes ces heures hebdomadaires. On est quand même sur d'un mi-temps, entre un mi-temps et deux tiers pour, donc, il y a du boulot, mais c'est plutôt que de le financer, c'est de l'esclavage moderne, finalement.
En tout cas, le risque, c'est d'aller sur, c'est un raisonnement en chaîne, hein. C'est-à-dire qu'on va accepter des boulots, souvent c'est les plus précaires et les moins bien payés.
Évidemment.
Donc on va être sur une précarisation, etc., etc. Mais donc, comme on a, on va dire, de la main-d'œuvre qui sera disponible, pas de problème pour ne pas améliorer les conditions de travail, pour ne pas améliorer les rémunérations, puisqu'on a déjà des allocataires du RSA qui seront contraints d'accepter ces emplois. Donc, c'est vraiment quelque chose de très pernicieux et il faut. Se mobiliser, être très vigilant. Là, le dispositif, il est prévu, donc il va se mettre en place. Il y aura sans doute des mobilisations au-delà des élus. Pour l'instant, ça reste très...
Parce que vous attendez de savoir, quoi.
Confidentiel, on attend le cadre définitif. Mais en tout cas, on sera très vigilant là-dessus. Et on n'hésitera pas à dénoncer les conséquences très concrètes de cette réforme.
En tout cas, on se donne rendez-vous pour commencer cette année d'un bon pied sur les réseaux sociaux, aux informations, dans tous les collectifs qui vont se mobiliser. On a parlé de syndicats, on a parlé de partis, il y a la société civile qui va évidemment se bouger aussi. Je pense que ce mois de janvier va être chaud, plus que climatique. Donc rendez-vous pour toutes les manifestations, toutes les pétitions, tout ce qui va pouvoir sortir pour qu'on puisse exprimer notre opposition ferme à ce projet. Rendez-vous aussi sur le site génération-s.fr pour retrouver notamment une brochure super bien faite avec un argumentaire maison pour les fêtes ou autre, ou entre les fêtes, contre les contre-arguments habituels, la fainéantise, la leur travail, le financement, tout ça, vous y trouverez plein d'idées. Et puis aussi retrouver le projet sur le revenu universel d'existence. Donc merci beaucoup Laurent d'être au front avec Faustine et continuer,
rien, ouais.
C'est ça, à grappiller à chaque périmètre tout ce qu'on peut, en opposition et en proposition. Et puis on continue à se souhaiter une bonne année d'émission aussi, Max.
Mais oui, tout à fait. On se retrouve le mois prochain.
Le mois prochain pour encore une version de Revenu de Base. Et en mars, grande nouvelle, on va fêter les 10 ans du mouvement français pour le Revenu de Base avec un slogan du genre « Il y a 10 ans, parce que c'est nous 10 ans, il y a 10 ans, on y pensait, dans 10 ans, on l'aura fait ».
Eh bien écoute, c'est tout le souhait que j'ai également pour le mouvement français du revenu de base et puis pour notre émission, pourquoi pas. Hein, et le mieux, ce serait quand même qu'on disparaisse
voilà.
Rapidement.
Que ce comme les Restos du cœur, voilà. Bien sûr.
On peut y dire, on peut y rêver. Allez, bonne année à tous. À bientôt, au revoir.
Je suis essentiel. Oui, essentiel. Jour. Verser Coursa au champ, engraisser Amazon, pendant que crèvent des honnêtes gens avec leur môme. Métro, boulot, dodo, ça va bien un moment. Les hommes ne sont pas des machines que l'on confine. Je suis essentiel.